On va commencer Bezrat Hashem, la 13e lettre de Higueret HaKodesh. Et donc on va essayer de dédier ça également à Tu Bishvat.
Ah si, j'ai un nom aussi.
Hein?
Pour l'étude.
Oui, vas-y.
C'est Eric et Louis qui m'ont donné parce qu'il a perdu un peu.
D'accord, pas de chemin, il n'y a pas de problème. Donc on va. C'est une lettre, donc on est à la page 237. La lettre numéro 13 a été écrite a priori en l'hiver 5552. Pour les Tunisiens, on y était presque. C'était presque. Hein? 5552.
Yaakov Gedge.
Yaakov Gedge, d'accord. On rapproche les mains. Allélu Nishma, d'accord. Allélu Nishma. Etienne Ben Moula. Ok. Donc, c'est une lettre qui a été écrite a priori pendant l'hiver 5552. Et dans cette lettre, il va encourager, à la fin, il parlera de la tzedaka, il va encourager à donner la tzedaka de manière illimitée. D'accord? Nos limites, illimitées. Mais avant de passer à la tzedaka, on va avoir un développement très intéressant du Admor HaZaken. Quand je dis très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Il va nous faire une synthèse de plusieurs sujets dans la Torah. Il va nous montrer comment des fois il y a des chachamim qui virent à droite, des fois il y a des chachamim qui virent à gauche.
Et toujours avec un lien.
D'accord, alors on va développer. Une seconde, on va développer. Laissez-moi développer. On marque des pauses pour les questions, c'est plus simple. Donc il va montrer comment il y a différents sujets dans la Torah et différents chachamim selon leur nature. Des fois ils vont virer à droite, des fois ils vont virer à gauche. Pas seulement ça. On va prendre des exemples de personnages. On va prendre des exemples également de sujets. Et on va montrer comment des fois la Torah nous encourage à aller plutôt à droite, plutôt vers la bonté. Et des fois la Torah nous encourage à aller plutôt vers la gauche, plutôt vers la rigueur. Donc on va mettre des exemples, d'accord, de manière très claire. Et on va essayer de voir, finalement, qu'est-ce que la Torah pense, où la Torah veut qu'on se situe. C'est pas seulement ça pour compliquer les choses, ce qu'on va expliquer. C'est qu'en vérité, non seulement déjà que dans la Torah, des fois la Torah nous tire à gauche, des fois la Torah nous tire à droite. En plus, il y a des chachamim des fois qui nous tirent à droite, des fois des chachamim qui nous tirent à gauche. Mais en plus de ça, dans nos natures à nous, des fois on a des gens qui sont plutôt bons, et des fois on a des gens qui sont plutôt rigoureux. Et des fois dans une même famille, dans un même couple, tu as un qui est plutôt vers la bonté, un qui est plutôt vers la rigueur. On va essayer de voir qu'est-ce que la Torah en pense, comment on peut faire un équilibre dans tout ça. Donc pour répondre à cette question, on va d'abord devoir faire une synthèse de plusieurs cas de la Torah, d'accord ? On va avoir une quinzaine de cas dans la Torah, dans lesquels des fois on voit que la Torah a tiré à droite, des fois on voit que la Torah a tiré vers la gauche. C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Alors, pour illustrer ça, d'abord, l'Admor HaZaken, il va prendre un pasouk de Tehilim. Bonsoir. Tehilim 31,
c'est toi.
D'accord ? Il dit comme ça, il dit... Marav Tufra Asher Tzafan Talirecha. Ça veut dire quoi le mot Tov en hébreu? Bon. Et ça veut dire quoi le mot Tuv?
Presque bon.
La bonté aussi. Kol Tov, que du bon, que du bien.
Parfait.
Le bien-être.
Quelle est la différence?
Bonne.
Peut-être que Tuv c'est par rapport aux personnes et Tov c'est par rapport aux situations, non?
Tov, ça veut dire le bien. Tuv, c'est le meilleur.
Voilà.
Quand on dit à quelqu'un « Koltouv », d'accord, ça veut dire on dit « je te souhaite le meilleur ». Ça, d'accord, il faut le savoir. Et pourtant, en hébreu, ça s'écrit de la même manière. « Tov, Touv », c'est la même manière.
Mais tu mets
d'accord
le point.
Donc, en français, il y a une expression aussi qui dit « que le meilleur ».
Quand on souhaite le meilleur.
Quoi, voilà, je souhaite le meilleur, veut le meilleur. D'accord.
Le numéro 13, c'est passé.
Ouais.
On a changé de volume.
Ah. Jusqu'à où tu vas, toi, ici? Désolé. Pas grave, c'est enregistré, tu réviseras. Donc, le passage qui dit la chose suivante. Tehilim 31. Marav Tufra Asher Tzafan Talirecha. Combien est grande ta bonté? Alors, on a dit, c'est pas en vérité la bonté. Tuv, en hébreu, on a dit, ça veut dire le meilleur. Asher Tzafan Talirecha. Que à Kadosh Baruch Hu, tu as mis de côté l'Ire Echa, tu as caché l'Ire Echa pour ceux qui te craignent. On reviendra à ce pasouk à la fin de la lettre. Il expliquera qu'en vérité, dans cette lettre-là, il y a deux notions. D'abord, il y a le meilleur, et après, il y a ce que Dieu a caché pour ceux qui le craignent. Donc, c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter dessus, ce n'est pas le but maintenant, de ce cours. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le thème que j'ai dit. Ine, Bichlal of Dehashem. Dès qu'il s'agit de ceux qui servent Dieu, Et donc, qui dit servir à Kadosh Barouhou, ça veut dire, c'est très important l'introduction qu'il va dire ici, ça veut dire, il dit, ne crois pas que c'est ou noir ou blanc, et qu'il y a une seule manière de servir à Kadosh Barouhou, d'accord, et que forcément, il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Sache que quoi qu'il arrive, toutes les catégories qu'on dira, on les appellera tous Ovdei Hashem, des gens qui servent Dieu, des serviteurs de Dieu. D'accord ? Seulement, il y a des serviteurs qui vont servir plutôt par la bonté, des serviteurs qui servent plutôt par la rigueur. Mais c'est très important, ça, à comprendre depuis le départ. Ça veut dire qu'il veut te dire, quoi qu'il arrive, peu importe quelle que soit ta nature, quelle que soit ta manière à toi de voir les choses, quelle que soit ta manière à toi de comprendre ce que les autres font, sache que quoi qu'il arrive, ce que l'autre fait, lui aussi, il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Très important à comprendre ça. Parce qu'après, avec le temps, vous savez, chacun il va se forger sa manière de voir les choses, sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et après, avec le temps, on peut se dire... Moi, je sers Dieu, et l'autre, il perd son temps. C'est pour ça que tu fais attention. Avant même que je t'explique et que tu comprennes ce que tu comprennes, sache que ils sont tous, on est tous, Ovdei Hashem, ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu.
Pas de rivalité, non
pas de rivalité. Pas de rivalité. Pas de rivalité, mais bon, voilà. C'est... Par exemple, tu prends une personne qui... On va donner des exemples, je vais vous donner un petit exemple. Prends une personne qui sert à Kadosh Baruch Hu. Tu veux pas, tiens, ah, la bourra, d'accord. Ah bon? Prends une personne qui sert à Kadosh Baruch Hu dans la rigueur. Quelqu'un qui est très rigoureux. Tu vas lui présenter une personne qui est là plutôt bon. Il va dire, mais il a rien compris.
C'est relatif.
D'accord? Il va dire, mais il a rien compris, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et vice versa. Tu prends une personne qui est bon, qui est généreux, etc. Et il va voir une personne qui est rigoureuse, il va dire, mais il a rien compris, c'est pas ça la Torah.
Bah, les tchadikim, c'est toujours la bonté.
Attention, on va voir. Parce qu'on va développer. C'est ça qu'il faut laisser développer. D'abord, on va dire le chayim parce que c'est très important ce qu'on va dire aujourd'hui. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam shehakol nehiya bidvaro. Chayim, chayim. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous développer. Que de la même manière que les arbres commencent à se développer, que nous aussi on commence à se développer comme il se doit. Parce que l'homme est comparé à l'arbre des champs. Alors, t'as un redire ici. Je relis. Vous avez dans les mots ? C'est bon, vous avez dans les mots ? Et on va pas s'attarder, on va essayer d'aller directement au vif du sujet. Iné. Bichlal Ovdei Hashem, yesh shtei brinot. Dès qu'il s'agit de gens qui servent à Kadosh Baruch Hu, il y a tout de suite deux niveaux, deux états d'esprit. Ou madrigot chalukot. Et si c'est comme ça, ce qui veut expliquer l'admor Hazaken, en vérité, on a touché à ça déjà. Dans l'introduction du Tania qu'on a étudié il y a 6 ans. Là-bas, dans l'introduction du Tania, il dit la chose suivante. Il dit, tu sais pourquoi il y a des différences entre les gens ? Et qu'il y a des gens qui sont plutôt bons. Il y a des gens qui sont plutôt rigoureux. Tu crois que Hillel et Shammai, Hillel, il s'est levé un beau jour, il a dit, bon, moi j'ai décidé, je suis bon. Et Shammai, il a décidé, il a dit, bon, moi je suis rigoureux. Et ça aurait pu être le contraire. Qu'Hillel aurait pu être Shammai, Shammai aurait pu être Hillel. Pas du tout. En vérité, ce qu'on a expliqué, et ça vient du Harizal, dans l'introduction du Tania, qui est donc, on a étudié ça il y a 6 ans, il a expliqué qu'en vérité, c'est une histoire de Neshamot. Il y a dans les Neshamot, dès le départ, il y a des Neshamot qui sont plutôt du côté Chesed, du côté de la bonté, il y a des Neshamot qui sont plutôt du côté de la rigueur. Et c'est ce qui va faire que ces Neshamot, lorsqu'elles vont descendre en bas, inconsciemment, ils vont être plutôt bons ou plutôt rigoureux, ou plutôt harmonieux.
Mais c'est pas sympathique.
C'est ce qui explique, par exemple, vous avez Avraham et Yitzhak. Avraham, il est plutôt bon. C'est la bonté. Yitzhak, il est plutôt rigoureux. Très rigoureux, même. Pourtant, Yitzhak, c'est le père de... C'est le fils d'Avraham. Et les tatas Yitzhak ben Avraham. Avraham, au lieu d'être Yitzhak. Ça veut dire que c'est... On dit qu'ils se ressemblaient à 100%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que c'est pas que Yitzhak, il a dit « Je veux pas être comme mon père ». Il dit « Mon père, il était trop bon, moi je vais être rigoureux ». Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est que dès le départ, mon David, ça c'est le moyen, il faut passer au but maintenant. Chaim. Dès le départ, ils avaient des neshamot qui n'étaient pas les mêmes. Et donc Avraham, il est sorti comme il est sorti. Le Zohar dit qu'Avraham était l'ambassadeur du Chesed dans le monde. C'est pas qu'il est né, qu'il a réfléchi, il a dit je vais te dire comme ça. Dès le départ, sa nature était comme ça. Yitzhak, c'était plutôt la nature de Gvoura.
Mais les natures ont un lien fort avec les missions qu'ont à accomplir les uns les autres.
Bien sûr.
Bah, c'est pour ça qu'on ne peut pas tous avoir les
mêmes. Ce qu'on veut expliquer ici, c'est que la nature qu'on a, c'est pas forcément quelque chose qu'on va construire.
Non,
c'est pas du tout même qu'on va construire. C'est quelque chose qui est lié directement, à la Neshama. Alors c'est une approche intéressante d'Admor HaZaken, parce que l'Admor HaZaken, c'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup, entre guillemets. Déjà dans le chapitre 32, quand on a parlé de l'importance de Ahavat Israël, de l'amour de ce, qu'on doit avoir envers son prochain, l'Admor HaZaken, il a expliqué que le vrai amour qu'on doit avoir, le Ahavat Israël, c'est qu'on doit se dire, c'est vrai qu'ici-bas, par rapport au corps, on n'est pas les mêmes, mais par rapport à la Neshama, on partage tous la même infrastructure de Neshamot. Donc encore une fois, c'est-à-dire tu imposes à quelqu'un un certain sentiment par rapport à une chose qui se passe en haut. Parce que la manière comment on voit les choses de l'Admor HaZaken, c'est qu'en vérité, la vie ici n'est qu'un reflet de ce qui se passe en haut. Et que si une personne ici est plutôt bon ou plutôt rigoureux, ou il a une difficulté par rapport à tel avéra ou par rapport à tel mitzvah, c'est un reflet par rapport à quelque chose qui se passe en haut, obligatoirement. C'est pas, il n'y a rien qui se fait ici par hasard. Bon. Donc, si on est convaincu de ce principe, que tout ce qui se passe ici est un reflet de ce qui se passe en haut, donc, il faut dire de la même manière, la Neshama que j'ai ici est elle aussi un reflet d'une grande partie de la Neshama qui, elle, se trouve en haut. Et si la Neshama qui se trouve en bas, eh ben, elle a une tendance plutôt chesed, ça veut dire qu'en haut, la Neshama, elle est plutôt du côté chesed d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est le contraire, ça veut dire qu'elle est plutôt du côté gvura d'Akadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, il faut se rappeler constamment que les deux, peu importe de quel côté on se trouve, on est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Marav Toufra, on va développer. D'accord.
L'individu peut être tantôt l'un et l'autre.
Excusez-moi, on va mettre des pauses parce que là, il faut que je développe le fil. Donc là, maintenant, ce qu'il va faire l'Admor HaZaken, il va nous donner des exemples. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Il va nous donner des exemples dans la vie de tous les jours. Comment on va voir, comment des fois la Torah elle nous encourage plutôt le côté gauche, et des fois, la Torah nous encourage plutôt le côté droit. On va donner des exemples. Il faut qu'on comprenne tout de suite. Donc, mitzat shoresh tishmatav lemala miprinat yamin usmol. Que, par rapport à la racine de la Neshama en haut, à droite ou à gauche, c'est par rapport à ça ce qui va faire que quand on va arriver en bas, dans une même famille, dans une, etc., on aura un qui est plutôt à droite, l'autre qui est plutôt à gauche. En clair, ça veut dire quoi? Un qui est plutôt à droite, l'autre qui est plutôt à gauche. Il développe. Il dit comme ça. Premier exemple qu'il amène ici. Daïnou, ça veut dire. On va commencer par le plus simple. Chez Prinat Smol, c'est quoi la gauche? Qu'est-ce qu'on considère la gauche? Elle a mis des exemples. Imidat at simtsum ve'ester vavodat Hashem. De manière générale, dans la nature, la droite, c'est ce qui donne, et la gauche, c'est ce qui contracte. D'accord? Donc la droite, c'est le plus, la gauche, c'est le moins. D'accord? Donc on va donner des exemples dans la vavodat Hashem de la gauche. Sans faire de rapport avec la politique. Imidat at simtsum ve'ester bavodat Hashem. C'est quoi la gauche selon la Torah? La gauche selon la Torah, c'est quand on va cultiver la discrétion dans Avodat Hashem. Un exemple. Premier exemple. Kemosh et Katouf, comme c'est écrit, il y a un passouk qui dit dans Mira, et c'est marqué également dans Irmiya, dans Jérémie, ve'atznea lechet roule. Le passouk dit la chose suivante. Le Navi, le prophète Mira, il dit la chose suivante, il dit, Akadosh Baruch Hu te dit, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi? Ve'atznea lechet. Atznea lechet, ça veut dire marcher de manière discrète. Tzniut, la discrétion. Alors, vous savez, le Shnei Luchot HaBrit, qui est une des grandes bases du Tanya, il nous parle de l'importance de la tzniut, de la discrétion. Et il dit, c'est quoi la tzniut? Ça veut dire que une personne doit s'efforcer de ne pas trop se mélanger parmi les hommes. Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Et il dit, finalement, qu'est-ce qui fait qu'une personne faute? C'est quand il va chercher à se mélanger avec des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Donc du coup, il va prendre exemple sur qui il ne faut pas prendre exemple. Et du coup, il va tomber à faire de la vérote. Si une personne veut rester kadosh, il veut rester saint, dans la pensée, la parole et l'action, écoutez bien ce qu'il dit Shneur Khotabrit, il faut qu'il s'enferme dans sa chambre et qu'il passe le plus clair de son temps, quand il peut bien sûr, à étudier la Torah et à faire les misotes. Bonsoir. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il nous dit le Shneur Khotabrit. Et Bémet, il n'invente pas. Il n'invente pas, parce que c'est écrit dans le pasouk dans le prophète Mira, le pasouk Irmiya, c'est écrit que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de juif? Ve'atznea lechet imashem elokecha. Il attend de nous la discrétion. Alors, là, vous voyez tout de suite, il nous a donné un premier exemple. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui préfèrent servir Akadosh Baruch Hu dans la discrétion. Il y a des gens qui préfèrent servir à Kadosh Baruch Hu au contraire, dans le faste. D'accord, dans le faste. Alors, de manière générale, il faut savoir, contrairement à ce que vous pouvez penser, si je vous dis, d'après vous, les chassidim, ils rentrent dans quelle catégorie? Vous allez me dire, bah, les chassidim, ils sont là en train de dans le faste. Pas du
non,
tout.
Non, c'est la discrétion.
C'est bien. Les chassidim, chez les chassidim, c'est quelque chose qui est bémet. Quand on réfléchit, on voit que bémet, c'est une qualité qui est une qualité mamache qui est très forte du chassidisme. Chez les chassidim, on a toujours fait très attention à ne pas avoir ce qu'on appelle le blitot. Vous savez ce que c'est le blitot? Blitot, c'est quand on va avoir des, comment on appelle ça, des bosses.
Des bosses?
C'est quoi une bosse?
Des aspérites.
D'accord? Ça veut dire que une personne, il a envie de montrer extérieurement, il dit, regardez, t'as vu, je suis pas comme tout le monde. Et chez les chassidim, on s'est toujours efforcé, au maximum, à ne pas laisser transparaître ses qualités intérieures. Parce que les qualités sont pas pour l'autre. Les qualités sont entre Akadosh Baruch Hu et moi. Et le seul cas dans lequel je vais laisser transparaître mes qualités, c'est si je pense que j'en ai besoin pour apprendre à quelqu'un, pour lui enseigner la Torah, pour l'aider à avancer. Ça veut dire, par exemple, d'accord, je ne sais pas moi, une personne qui a donné de la tzedaka. D'accord, imaginez-vous une personne qui a donné de la tzedaka dans un autre endroit qui ne concerne personne ici. Est-ce qu'il va le raconter ici?
Oui.
Il peut s'il veut, mais ça ne sert à rien.
Pour inciter les autres à faire pareil.
Ça s'appelle Blitot. Ah, inciter les autres à faire pareil. Quand ici, là-bas,
là-bas.
Il faut vraiment que ce soit vrai. Parce que, attention, c'est... Est-ce que c'est vraiment pour ça? C'est ça le piège.
C'est
dangereux. D'accord. Alors, on dit que chez les chassidim, ils faisaient très attention à ne pas montrer leur qualité. Ah, quelqu'un, il est bakivé, il ne montre pas. Quelqu'un, il a tué, il ne montre pas. Quelqu'un, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Et on dit, on raconte beaucoup d'histoires comment les chassidim, ils avaient une grande peine quand on avait découvert une de leurs qualités. Une de leurs qualités qu'ils ne voulaient pas montrer. Il y a des qualités qu'on doit montrer, parce qu'il faut bien être rave, il faut bien être comme ci, comme ça. Mais il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de montrer. Et on sait combien chez les chassidim, ils avaient beaucoup de peine quand on avait découvert une de leurs qualités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en vérité, on est en train de parler d'une qualité qui vient du côté gauche. Du côté de la contraction. On a dit qu'il y a deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Soit du côté droit, soit du côté gauche. On va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est le côté gauche, la contraction. Comment on retrouve la contraction dans la voie d'Hachem? C'est la discrétion. Le fait de dire que c'est entre Akadosh Baruch Hu et moi, personne n'a besoin de savoir ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je parle bien sûr des qualités. D'accord?
Ce qu'on demande d'une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on doit la faire dans la discrétion pour qu'elle ait plus de mérite. Sinon, après, elle perd de son poids.
C'est pas seulement qu'il perd de son poids, c'est qu'après ça veut dire que tu l'as fait pour les autres, tu l'as pas fait pour Akadosh Baruch Hu.
Non, ça fait genre en jeu fruit, ouais, j'ai fait ça et tout.
D'accord. Ça, c'est quelque chose de. Attention, faut pas non plus négliger. C'est-à-dire, tu as d'autres courants où ils vont te dire au contraire. Le fait de le faire avec du faste et que tout le monde soit au courant, peut-être ça va t'encourager à aller plus loin. Chez la Chassidoute, on réfléchit pas du tout comme ça. On dit c'est entre Akadosh Baruch Hu et toi, et ce que tu fais, tu le gardes pour toi, ça concerne pas les autres. Vous voyez, donc c'est pourtant contraire à ce qu'on aurait pu s'attendre. On aurait pu croire qu'au contraire, les chassidim, c'est avec du. Alors que c'est complètement le contraire. Et d'ailleurs, c'est une raison pourquoi, très souvent, on a pris les chassidim pour des gens simples, etc. Parce qu'ils ne montraient pas. Ils ne montraient que quand il y avait besoin. Et quand ils devaient montrer, ils étaient très peinés de devoir montrer.
Il y a des choses que tu ne peux pas cacher.
D'accord? Tu caches ce que tu veux cacher, tu montres ce que tu veux montrer.
Bah, c'est clair.
Il y a des choses qui sont évidentes, des fois, qui paraissent.
Ce qui paraît, ça peut être encore loin de ce qui est vrai. D'accord? Ça, c'est pour ça que les chassidim, ils faisaient très attention à ça. Donc voilà, on a ici un premier exemple. Mais néanmoins, je vais tout de suite rajouter un détail important. Rabbi, il explique plusieurs fois que quand il s'agit de faire afatsat amayanot, c'est-à-dire quand il s'agit de faire du kirouv, de rapprocher des gens à la Torah, là, dans ce cas-là, quand tu es discret et tu ne montres pas tes qualités, peut-être qu'à cause de ça, la personne il va croire qu'il a affaire à quelqu'un de basique. Donc dans ce cas-là, mais il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment être sûr qu'on montre ses qualités uniquement pour mieux rapprocher l'autre personne. Et ça, c'est-à-dire que tu dois montrer que ce qui est nécessaire.
Mais c'est aléatoire.
D'accord. Ce qui n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. D'accord. Donc c'est très... Pour moi, je pense que c'est un sujet qui est très, très difficile. Allez, par exemple, des fois, je vais dans un endroit et je vois un rave qui fait une dracha, d'accord, et qui dit, la majorité du cas, c'est des gens, qui savent à peine s'ils savent lire, et il dit, c'est écrit, il amène les Gemara, c'est écrit dans Gemara, Chagiga, Dafudbet, Amudbet. Maintenant, les gens, ni ils savent ce que c'est Gemara, ni ils savent ce que c'est Chagiga, ni ils savent ce que c'est Yudbet, et ni ils savent ce que c'est Amudbet.
Non, mais ils savent que c'est écrit.
Voilà, ils savent que c'est écrit. Hein. Tu vois, donc, la question que tu te poses, c'est jusqu'à où ça va, à combien ça va servir? C'est compliqué. C'est une question qui est très compliquée. Et ça, le rabbi dit que chacun doit faire confiance à son sechel pour décider ce qu'il faut faire. Mais de manière générale, chez les chassidim, on est pour la discrétion à 100%. D'accord ? Donc, là, on a vu un premier exemple. Comment on a retrouvé le côté gauche ? Quoi, le côté gauche ? Le côté de la contraction, c'est-à-dire on sert à Kadosh Baruch Hu dans la discrétion. Donc la discrétion, c'est-à-dire on se retire. Donc on a retrouvé le côté gauche. Premier exemple. Deuxième exemple, qu'il amène ici. Deuxième exemple, il amène un autre pasouk. Bamistarim tifke nafshi. Ça, c'est écrit dans Irmiya, dans Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit le verset ? Le verset, il dit « Mon âme pleure en cachette ». C'est de quoi que mon âme pleure en cachette ? Le Zohar explique la chose suivante. Il dit que Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'amener les Bnei Israël en exil, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, donc ça c'est, on le dit dans Irmiya à propos de la destruction du deuxième Beth Amigdash, Akadosh Baruch Hu, il dit, bah, mistar im tifke nafshi, mon âme pleure en cachette. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne vous montre pas que je pleure, mais en vérité, je suis en train de pleurer. Et là, en vérité, on retrouve exactement le même problème. Est-ce qu'on doit montrer nos émotions? Est-ce qu'on doit montrer nos émotions? T'as des gens qui vont te dire, oui, il faut montrer ses émotions. Et que le fait qu'on va te voir pleurer, au contraire, ça va peut-être inciter d'autres personnes à comprendre que le sujet est grave. D'un autre côté, il y a d'autres personnes qui vont dire exactement le contraire. Ils vont dire, non, on ne montre pas nos émotions. Une émotion, c'est quelque chose de personnel, quelque chose qui est intérieur.
La Torah en est pleine.
D'accord?
La Torah en est pleine.
De
Hachem qui montre ses émotions, il est en colère, il est comme ci, il est comme ça.
Quand il a montré, c'est parce qu'il devait le montrer. Mais là, c'est ce qu'on dit ici, c'est qu'on dit que quand Akadosh Baruch Hu il a détruit le deuxième Beth Amikdash, il a pleuré en cachette. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas montré à nous qu'il est en train de pleurer. C'est comme un père qui veut pleurer, mais qui ne veut pas pleurer devant son fils. Il va se mettre dans un coin pour pleurer. Parce qu'il ne veut pas montrer ses émotions. Oui, ça, c'est des sujets de la vie de tous les jours, ça. Est-ce qu'on a montré ses émotions ou pas montré ses émotions? C'est une nature. Alors qu'est-ce que la Torah encourage? Donc d'un côté, on voit qu'il y a des psukim qui encouragent le côté gauche. Voilà. On a vu par exemple, la Torah nous encourage la discrétion, ne pas montrer ses qualités. La Torah nous encourage que même si tu dois pleurer, c'est-à-dire même si tu dois montrer des émotions, fais-le en cachette. Les émotions, c'est quelque chose qui se fait en cachette, qui se montre pas. C'est pour ça que chez Chassidim, on dit que quand les Chassidim faisaient teshuva et quand les Chassidim pleuraient, ils s'arrangeaient pour qu'il n'y ait personne autour. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas venir à Mkipour, tu vas pleurer devant tout le monde t'a vu pleurer, bravo, Mazal Tov. Où tu te crois ici? C'est pas là que ça se passe. C'est quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas dans ta salle à manger, personne va te regarder, c'est là qu'on va voir quand tu joues. D'accord? Bah, Mistar Intif Kenav, c'est comme ça dit Irmiya. Jérémie a dit, mon âme pleure en cachette. Donc là, encore une fois, on voit que, a priori, la Torah, d'une certaine manière, elle encourage la discrétion. Ok. Deuxième exemple. Vous voyez, on a déjà eu deux exemples. Premier exemple, on a dit, est-ce qu'il faut montrer ses qualités ou pas? A priori, pour l'instant, la Torah décourage de montrer ses qualités. Il faut le garder pour soi. Est-ce qu'il faut montrer ses émotions? A priori, là aussi, encore une fois, la Torah décourage de montrer ses émotions. D'accord? Alors encore une fois, quand je dis de ne pas montrer ses émotions, ça ne veut pas dire par exemple qu'on ne doit pas dire à sa femme qu'on l'aime, on ne doit pas montrer à sa femme, à ses enfants qu'on les aime. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que quand c'est une émotion personnelle entre Akadosh Baruch Hu et moi, que je pleure par exemple pour Teshuva, ça ne concerne personne. Donc il n'y a pas besoin de le faire en public. Ça, c'est une valeur très importante dans la chassidoute, de ne pas faire en public. Ça ne concerne personne, ça concerne toi et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était un deuxième exemple. Après, on fera un résumé des exemples. Troisième exemple, Kol Haosek Vatora Beseter, Gmara Yerushalmi, qui dit la chose suivante, qui dit, Kol Haosek, alors vous savez, il y a un pasouk dans Shir HaShirim, qui dit, le pasouk dans Shir HaShirim, il dit, Mayafu Pa'amayr Banalaim, Bat Nadiv Chamuke Yerechair, d'accord? Ça veut dire quoi? Chamuke Yerechair, Chamuke, on a le terme Chamak, Chamak en hébreu, ça veut dire se faufiler, qui dit se faufiler, ça veut dire qu'on va se cacher. Talmud Yerushalmi dit la chose suivante. Il dit, pour quel rapport entre on dit ici Chamuke Yerechair, les anges qui se cachent? Comment on parle? Talmud Yerushalmi s'arrête sur ce passage du Shir HaShirim. Il dit, c'est très simple. Il dit, la Torah est comparée comme une cuisse. De la même manière que la cuisse d'un membre qui est caché. De la même manière, écoutez bien, les divrei Torah, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui se fait en cachette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est pas quelque chose qui se fait sur la place du marché. C'est quelque chose qui se fait dans la discrétion d'une maison, dans la discrétion d'un endroit, d'une chambre qui est fermée. Et la Gemara a dit la chose suivante, a dit que Kol Haosek Batora Bifnim, Torah Tomachezet Alav Mbachutz. Il dit qu'une personne qui étudie la Torah à l'intérieur, ça finira par se voir à l'extérieur. Mais l'étude de la Torah ne se fait pas dans un lieu qui est public. L'étude de la Torah, pour étudier la Torah, on a besoin de calme, de tranquillité. De calme, ça veut dire on a besoin de, d'un endroit qui est fermé et de, d'être, d'avoir l'esprit posé. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici encore une fois un troisième exemple. On a eu un premier exemple pour le, montrer ses qualités. Deuxième exemple, on a montré pour les émotions. Troisième exemple pour l'étude. D'accord ? C'est pas rien, c'est des exemples très importants. Ça. Apparemment, pour l'étude, la Torah encourage également la discrétion. Je ne parle pas de montrer ses qualités. L'étude, que, quand j'étudie, je me mets dans un coin, ça veut dire c'est la discrétion. Je me mets dans un coin, je cherche le calme, pas le fast. Ça, c'est un premier groupe de psukim et de références. Bien sûr, je suppose que dans votre tête maintenant, vous avez des contre-exemples. Vous dites, oui, mais on a déjà vu le contraire. Hmm? Exactement.
Ah ouais.
Non, même à la yeshiva, attention.
Mais je dirais que c'est bruyant. Quoi.
Non, pas du tout. Le contraire, la yeshiva, c'est un moment... Pourquoi on appelle yeshiva ? Dans le mot yeshiva, il y a le mot yishuv. Yishuv, qui veut dire installation, repos. La yeshiva, c'est un des endroits où on a la tête le plus reposée possible. C'est-à-dire que quand tu rentres, mais c'est pas des blagues.
Ouais, mais
quand tu rentres,
pour se concentrer,
c'est dérangeant pour une personne qui n'a pas l'habitude. Mais quand tu rentres, une personne, quand tu rentres à la yeshiva, quand tu es dans la yeshiva, tu oublies tout ce qu'il y a dehors. Ça veut dire que tu t'enfermes quelque part. Tu t'exiles. Il y a même un terme qui est dans la Gemara qui dit Eve golelim comme Torah, s'exiler à l'endroit de Torah. Ça veut dire qu'on se retire. Pour étudier la Torah, il faut se retirer. Il faut se retirer de ce qu'il y a à l'extérieur. Ça, c'est des exemples de psukim qui sont écrits, des psukim et des gmarot. D'accord ? On a déjà eu trois exemples. Il y a un quatrième exemple encore. Ne vous inquiétez pas, après, il y a les contre-exemples. Après, on va devoir se poser la question où on se situe dans tout ça. D'accord ? Alors, il dit Veine, Mimidazo. De cette nature qu'on est en train d'expliquer ici, ça veut dire la nature de la discrétion, la nature de la compression, la nature de tout faire en retrait, en cachette, d'accord ? En retrait. Nimshecha Gamken. C'est très fort ce qu'il a dit ici l'Admor HaZaken. Il dit le problème qu'il y a avec cette approche est très simple. C'est une approche qui est très fréquente chez les chassidim mais qu'on va garder. Mais le problème qu'il y a avec cette approche, c'est qu'une personne qui a pris l'habitude de se retirer et de dire toujours non, 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 et avant de dire oui, il réfléchit beaucoup. Avant de dire oui à l'ouverture, il réfléchit beaucoup, il dit toujours non, non, non. Une personne comme ça, quand on va lui dire, on va donner la tzedaka. Viens, on va faire une mitzvah. Mais dis, tu as deux mitzvot. Tu peux acheter 100 à Etrog à 50 euros, 100 à Etrog à 200 euros.
Pas à 20 ?
Il y a 20 aussi, si tu veux. D'accord ? On va lui dire, tu vas donner la tzedaka, voilà, le strict minimum, c'est ça. Mais si tu veux, tu peux donner plus. Une personne qui s'est habituée à réfléchir du côté gauche, ça veut dire du côté que, toujours dans la discrétion, toujours dans le retrait, naturellement, instinctivement, c'est comme ça, ça va lui amener un certain tzimtzoum et une certaine limite dans la voie d'Hachem. Ça veut dire qu'il va dire, bon, bah, si la Torah a dit que ça c'est suffisant. Il va être conservateur. Voilà, conservateur c'est le bon mot. Une personne qui s'habitue à être toujours en retrait, bah, il va être conservateur, mais c'est pas négatif, ça veut pas dire qu'il n'a pas envie de donner la tzedaka. Ça veut dire que c'est devenu sa nature. Il est conservateur, donc il hésite, il attend, la Torah a dit ça suffit, on mettra de côté, on verra après, on verra plus tard. Il est conservateur. Il réfléchit beaucoup avant de faire les choses. D'accord ? Et donc il dit, BMET, c'est une approche qui est acceptée. Enfin, c'est une approche qui est acceptée. T'as des gens qui sont comme ça. Et ces gens-là, tu peux pas dire qu'ils servent pas à Kadosh Baruch Hu. C'est des gens qui servent à Kadosh Baruch Hu comme ça. Parce que leur Neshama était conçu comme ça. Donc, Veine, Mimidazo, Nimshecha Gamken, Prinat, Atzimtsum, Veagvul, Bavodat Hashem. De cette Mida-là, de la Mida, donc d'être toujours en train de la discrétion, le retrait, etc., ben, on va arriver à une certaine nature conservatrice dans Avodat Hashem, Kemo Bitzdaka. Par exemple, exemple pour la Tzedaka, Liot Nidon, Beisagiad. Il dit, écoute, moi je donne ce que je peux donner. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, il va dire, mais écoute, moi j'ai pas les moyens, donc je donne ce que je peux donner. Peut-être qu'il aurait pu donner plus, peut-être qu'il aurait pu claquer. Mais c'est une personne qui sait pas ce que ça veut dire claquer. Mais pas seulement par rapport à la Tzedaka, par rapport à tout. Il sait pas ce que ça veut dire claquer. Parce qu'on est Yitro, c'est la semaine des Tunisiens, voilà, c'est l'anti-Tunisien, l'Algérien. D'accord ?
J'ai rien que les Algériens ?
Non, non.
Non, là c'est Maroc.
Hein ? Mais c'est pas négatif ?
Ma femme est algérienne.
C'est pas négatif ? Mon père est algérien, c'est pas négatif, ça veut dire que c'est la nature, c'est comme ça. D'accord ?
Ils savent pas claquer.
Il est carré et conservateur. Bon. Alors, donc, c'est sa nature, il va devenir comme ça.
conservateur ou mesuré? Parce que là, le...
Non, justement, mesuré, ça c'était
si,
la...
Si on prend le temps de réfléchir avant de... C'est peser le poids, oui, le compte pour j'ai compris. Pouvoir...
Mais avec le temps, à force d'être mesuré, on finit par être conservateur, on prend pas de décision. Dis bon, non, c'est pas ça. Je fais le strict minimum.
Le terme conservateur, ça veut pas dire ça.
Conservateur, ça veut dire qu'on. Non. C'est-à-dire, je veux pas innover, je prends le minimum de risque.
Oui. Non, c'est ne pas innover, d'accord. Mais les traditions font partie du champ conservateur.
Voilà, il y a des choses
ça
comme.
Ça veut pas dire que pour autant on est.
Le problème, c'est que même dans les mitzvot, il y a toujours une marge. C'est-à-dire que la même mitzvah, tu peux la payer à 20 euros quand tu vas payer à 100 euros, à 200 euros, à 1000 euros. Donc il y a une marge.
Dans les anciens, d'accord, c'est la même chose.
Et donc on va retrouver la. Ça veut dire que tout le monde va faire. Les deux vont faire la mitzvah. La question elle va être comment ils vont faire la mitzvah.
Mais est-ce que l'essentiel, c'est pas de la faire point final la mitzvah?
Ah, ça c'est le conservateur qui parle comme ça.
Non, pourquoi?
Si.
Dans tous les cas, il faut la faire la mitzvah.
J'ai raison.
Ça fait partie des 613.
J'ai bien sûr. Ça, c'est clair qu'ils vont la faire la mitzvah. On parle de deux personnes religieuses. C'est pas la question.
Non, j'ai compris, mais il faut quand même qu'ils la fassent.
Là, on va expliquer comment finalement la nature d'une personne va dépeindre même sur ses mitzvot. Pas que sur ses
vies. Elle n'a pas moins de valeur que l'autre parce que.
Non. C'est comme ça que c'est sa manière de travailler. D'accord ? C'est sa manière de travailler, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, s'il se dit, par exemple, il va se dire, je vais mettre l'argent de côté, peut-être pour acheter autre chose, pour faire autre chose. C'est quelqu'un qui n'est pas dépensier. Il claque pas. Il réfléchit. Très posé, très réfléchi. Toujours en retrait, c'est-à-dire, attends, réfléchis, ne cours pas, doucement.
Il maîtrise.
D'accord ? Il maîtrise. Donc ça, Béhémeth, c'est une approche qui est très acceptée par la Torah. Et c'est une approche que, quand on réfléchit, on voit que la Torah, quelque part, un Talmid Chacham, il est poussé à devenir comme ça. Parce qu'on l'approche, on le pousse toujours à réfléchir, à être en retrait, à ne pas suivre tout le monde. Donc, justement, tu dis ne pas suivre tout le monde, donc il va être forcément conservateur. Donc, Liot Nidon Be Esegad, ça veut dire qu'une personne va commencer à réfléchir, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai pas les moyens, ça c'est Esegad, d'accord ? Va me vesbez, elle va se vesbez, tamiromesh. Et on sait ce qu'a dit l'Agmara. L'Agmara dit qu'une personne qui veut donner la tzedaka, même le dépensier, il peut pas dépenser plus que 20%. Donc tu comprends, donc lui il va être conservateur, donc il va dire écoute, j'ai donné 20%, je peux pas dépasser. Alors c'est vrai que la Gemara Zaken explique dans d'autres endroits que si on considère que la tzedaka c'est comme une refoua, comme une guérison, comme on va chez un docteur. C'est vrai que quand tu vas chez un docteur, tu dis je mets que jusqu'à 20% de ma paye. D'accord, pas du tout, quand tu vas chez un docteur, tu payes ce qu'il faut payer, et tu vas même jusqu'à t'endetter. Donc la Gemara Zaken dit que c'est la même chose pour la tzedaka, mais vous comprenez qu'une personne qui est conservateur ne peut pas réfléchir comme ça. Je ne peux pas réfléchir comme ça. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, mais ça une personne qui claque pas, ne pourra pas comprendre cet exemple. Le rabbi précédent, il a raconté une fois, il a dit que lui, quand il fait quelque chose, il fait toujours en grand. Une institution de Torah, il fait toujours en grand. Il a dit pourquoi ? Il a dit parce que je suis toujours à crédit. Et alors, que ça change ? Écoutez bien, mais ça il faut, celui qui est conservateur, il ne pourra jamais comprendre ça. Il dit comme ça. Il dit, en Russie, il y avait, quand on prenait le train, il y avait trois sections.
Trois
classes. Il y avait la classe, troisième classe, c'était la classe où voyageait la majorité du peuple. Il y avait la deuxième classe, qui était déjà un bon standing. Et il y avait la première classe. Première classe, c'était les VIP de chez VIP. Bon. Maintenant, tu as une personne qui n'a pas de quoi voyager. Il va devoir emprunter. Écoutez bien ce que dit le rapport précédent. Il n'a pas de quoi. C'est-à-dire, de toutes les façons, il n'a pas de quoi. C'est-à-dire qu'il ne vit pas sur son compte. Il vit sur l'argent qu'il va emprunter, de toutes les façons. Il dit comme ça. Il dit, une personne qui va emprunter, puisque déjà il va emprunter, alors tant qu'à faire, autant voyager en première classe. Puisqu'il voyage sur le compte. Mais c'est quelque chose, celui qui est conservateur, il ne pourra jamais comprendre ça. Impossible. Il va dire, mais non, pas du tout. Il va dire, cet argent, tu devras le rendre. Alors au lieu de rendre un billet qui vaut 1000 euros, tu vas rendre un billet qui vaut 100 euros. À quoi tu joues? Une personne qui n'est pas claqueur, il ne pourra jamais comprendre ça. D'accord? Hein?
Au lieu de courir derrière le bus, il vaut mieux courir derrière le taxi.
Ouais, exactement.
Il faut être fonceur un peu.
C'est quelque chose, je me rappelle, mais j'ai beaucoup de mal à faire. C'est pas facile à comprendre ça. Ça, c'est comme ça que la personne a expliqué. Dis-tu, toutes les façons, tu ne vis pas sur ton compte. Tu empruntes. Tu devras rendre. Alors, rendre pour rendre. Maintenant, profite maintenant. T'es en vacances, tu payes à crédit. Maintenant, toutes les façons, tu n'es pas sur ton compte, tu es sur le compte de la banque. Profite maintenant. C'est pas le moment de réfléchir.
C'est la même chose que ce qu'avait dit ton père un samedi dans un cours. Il dit, qui t'a demandé à HM Tzedaka, autant demander d'emblée ce qu'il y a de plus élevé que de demander ce dont que tu as besoin.
Mais là, ça n'a pas dans la Tzedaka, là. Là, tu as une personne qui vit à crédit.
Même raisonnement.
C'est-à-dire qu'il va faire un crédit pour les vacances. Il dit, au lieu de faire un crédit pour faire des vacances à Deauville, d'accord, je vais faire un crédit, je vais aller... Mais ça, une personne qui est conservateur, il ne peut pas comprendre. Il va dire, mais attends, cet argent, tu devrais le rendre.
au diable.
Ah bah tu t'en dates, tu t'en dates.
Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, non, je m'en un peu de Coca Zéro. Je suis dégoûté avec les pistaches, ça va.
Donc là, vous voyez, pourquoi je vous amène cet exemple? Ça, c'est le rabbi précédent qui disait. Il disait, comme je suis à crédit, alors crédit pour crédit. Mais lui, il disait ça pour les institutions de Torah, pour fonder les institutions de Torah.
Mais c'est toujours grand, et à un moment, tout le monde a dit, c'est on peut plus, quoi, t'es toujours grand, et maintenant, on n'a plus d'argent pour. Il devait 4 millions d'euros à la banque. Ouais, il est bien sérieux, ils ont été grands, et il y a eu, dernière seconde, quelqu'un qui a mis l'argent.
C'est le banquier qui avait peur.
C'est comme ça qu'on arrive au banqueroute. C'est comme ça, c'est la cavalerie, ça. Tu fais.
Ouais, mais les moulins, voilà, les dirigeants devaient être vrais. Il faut pas grand, il faut pas. Pour la Torah, il faut pas grand.
Ça défie les lois.
La moitié de la communauté disait, ça y est, on peut plus suivre.
On suit plus.
Ça, par exemple, les bêtises, on suit plus. Et les gens continuent, ils ont fait une verbe d'arbitrage de Strasbourg, ils ont fait une verbe. Plus ça va, plus ça dépense. Et hop, grâce à eux, ça marchait.
Ils ont fait venir le Beth Amidrash de...
Strasbourg,
de Rabbi. Ah oui, j'ai entendu. Ouais. Alors, en tout cas, voilà. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que dans cette histoire, on voit que finalement, la nature d'une personne va dépeindre même sur sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et on voit dans cet exemple qu'une personne qui s'habitue à être conservateur, à être plutôt réfléchi, posé, et qui va toujours en retrait, une personne comme ça, hein, dès qu'il va s'agir de dépenser, va dire « Attends, doucement ». Je dépense ce que j'ai, et même ce que j'ai jusqu'à 20%, on ne dépasse pas, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et il a raison de réfléchir comme ça, tu ne peux pas lui en vouloir, c'est vrai. D'accord ? Il a raison. Oukai Gavna Betalmud Torah. Continuez encore avec les mêmes exemples. Encore d'autres exemples, comment on voit, comment cette nature va dépeindre sa manière de voir les choses. Betalmud Torah ou Sheere Mitzvot. Combien il faut étudier la Torah par jour ? Une personne qui n'est pas de nature à être dépensier, il va dire, attends...
Le minimum.
Pas le minimum. Il va dire, attends, la Torah a dit, il faut dormir, j'ai mes heures où je dois dormir, j'ai mes heures où je dois manger, voilà, j'ai mes heures où je dois occuper d'un... Ça veut dire, il ne sait pas ce que c'est claquer. Il ne sait pas ce que c'est prendre un livre et rester 10 heures dessus. Ça n'existe pas. Parce qu'il est calculé. Mais encore une fois, ce n'est pas négatif, ça ne veut pas dire que c'est mal ce qu'il fait. C'est sa nature. Usher et mitzvot, il en est de même pour les autres mitzvot. Dailo sheyotze yedehova, il se suffira du fait qu'il se rend quitte. La Torah t'a dit fixe des moments pour la Torah, j'ai fait ce que la Torah m'a demandé. Dès que tu lui dis, attends, viens, on va toucher un sujet sotte de la Torah, Tania, viens, on va toucher une. Dis, attends, doucement. Je fais ce qu'on m'a demandé, je me suffis, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est content de moi, je suis content de moi, ma femme est contente de moi, mes enfants sont contents de moi, Baruch Hashem, tout va bien. Laisse-moi tranquille avec tes livres, mets ça de côté, on verra plus tard dans notre gilgoul. Il a raison de réfléchir comme ça, Kavirot. Pourquoi il a raison? Parce qu'il te dit, moi je suis conservateur, moi je me suffis déjà de ce que j'ai. Et déjà je construis sur ce que j'ai. D'accord. Ça c'est la gauche. D'accord, donc la gauche, je ne sais pas comment c'est en politique, mais en tout cas dans la Torah, la gauche, c'est toujours ceux qui sont conservateurs. Comme ça c'est en politique? Hein? À droite, c'est plus...
Non, mais claqueur, c'est plutôt la gauche.
C'est des raccourcis, quand même. Hein. En politique, c'est pas tout à fait ça. La droite est considérée comme conservateur, alors que la droite est considérée comme progressiste. Et à l'intérieur des courants de...
C'est la gauche qui claque.
Non,
c'est la gauche qui claque, c'est tout.
Non, c'est pas comme ça.
Bon, je sais pas, peu importe comment c'est. En tout cas, ce qui compte, c'est comment c'est dans la Torah.
Qui c'est qui fait les dépenses publiques? C'est la gauche.
Ok. Alors, ça c'est le côté, tout ça on a développé le côté gauche. Donc on va essayer de résumer. On a expliqué que la nature gauche, elle va s'exprimer, on a dit. Première chose, on a dit dans quoi? Dans comment je montre mes qualités, oui ou non. Donc celui qui est du côté gauche, il ne veut pas montrer ses qualités. Est-ce que je montre mes émotions? Celui qui est du côté gauche ne montre pas ses émotions. Troisième exemple qu'on a dit, troisième chose qu'on a dit, c'est l'étude de la Torah. D'accord, dans l'étude de la Torah, qu'une personne qui est conservateur, on a expliqué, dans l'étude de la Torah, il va limiter son étude. Quand on dit limiter, ça veut dire il sait pas ce que c'est claquer. On a donné des exemples dans la tzedaka. Il va limiter cette tzedaka, mais limiter dans les règles de la Torah. Je veux dire, voilà, la Torah a dit ça, d'accord. Limiter dans, et pareil dans toutes les mitzvot. Ça, c'est une personne qui est du côté gauche et qui on appelle Oved Hashem, qui sert à Kadosh Baruch Hu. Il est conservateur, d'accord. Maintenant. C'est la rigueur, oui. C'est la rigueur, ça veut dire c'est... Oui, c'est la rigueur, on peut appeler ça la rigueur. Maintenant, on va passer à la droite. D'accord ?
Pas trop utilisé.
On passe à la nitro. Viens, mon fils, viens.
C'est trop.
Mange, mon fils.
Là, on va les éclater. Viens. Ah.
Hmm? Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a pas de calcul. Je suis d'avance. C'est
un coco.
On va dire la
combien, hein. combien
de quoi?
Des fois, c'est un temps. Mais...
Alors, maintenant, on va montrer exactement le côté gauche. D'accord? Bon, là, vous comprenez que ce qu'on fait un peu, on fait un peu des caricatures. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une caricature?
On
grossit le défaut. Donc là, je vous ai mis le côté gauche. Et bien sûr, c'est quelqu'un de bien, mais on a grossi le défaut. On a montré que finalement, c'est quelqu'un qui ne prend aucune décision. Qui a peur de prendre des décisions. Et que même les décisions, il va prendre le strict minimum. Qui va dire, écoute, ce qu'il y a, ça marche, garde ce qu'il y a et c'est tout. C'est clair. Quand il va réfléchir comme ça, par exemple, il va acheter une voiture, il va garder la même pendant 30 ans. Tant qu'elle marche, il la garde. D'accord, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Il sait pas ce que c'est claquer, claquer. Bon, maintenant on a le côté droit. C'est quoi le côté droit? À la suite. Vous avez la suite? Alors je prends dans les mots. Vas-y.
On remplit le verre, quand ça déborde, c'est la bracha. C'est quand ça déborde, c'est l'opulence quelque part la bracha. Donc c'est un peu.
Bien sûr. Là on va voir le côté droit. J'ai pas fini. D'accord. Ça on a dit le côté gauche. Comment la Torah, quelque part, encourage ce côté-là. Ar, prinati, amin. Im, idata, reset, veit, pashtut, babalat, hachem, beit, rachfut. C'est quoi le yamin, la droite? Le yamin, c'est l'amida du reset, de la bonté. Veit, pashtut, il s'étale. D'accord? C'est l'amida de s'étaler. Vous savez, puisqu'on est dans la semaine de Yitro, on dit, il y a une blague qui dit comme ça, il dit, c'est quoi les deux endroits où un Tunisien se sent chez lui? Chez lui et chez les autres. C'est une blague de Jackie Cohen, hein. Crédit Jackie Cohen. Alors, ici, il appelle ça « it pêche tout ».
Et c'est réciproque. D'accord. Quand il reçoit, il faut
que... Oui, bien sûr.
Comme chez eux.
D'accord. « It pêche tout ». C'est quoi « it pêche tout »?« It pêche tout », ça veut dire « s'étaler ». La droite... C'est pas, on est là conservateur, on est là dans son coin. C'est le contraire, pile le contraire. Il est là à vouloir donner, à vouloir l'expansion. On s'étale au maximum, on grandit au maximum. C'est pas mâche le Tunisien, hein, c'est bon. Tu parles de Neuilly, c'est... Alors, Bavolat Hashem, Beit Rarvout, Blit, donc Bavolat Hashem, Beit Rarvout, largesse, large, big, Blit Simtsum Vesterklal, nos limites, sans aucune contraction, sans aucun voile. On lance, on démarre. D'accord? Comment chez Katou, hein? Et aussi, ils ont un pasouk qui va les aider. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Va être halcha barechava. Je marcherai barechava dans la large. Comment on dit? Prendre le large. Je prends toute la, tout le boulevard. C'est pas un petit coin de rue. D'accord? Va être halcha. C'est David Ameller qui dit ça. Le même David Ameller qui nous donnait des psukines dans lesquels il a dit je pleure en cachette, etc. Ce même David Ameller qui dit va être halcha barechava. Je marche barechava, c'est-à-dire je prends toute l'avenue. Pas seulement pas un petit coin de la rue. Et ça, c'est une approche aussi. C'est des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qui réfléchissent comme ça, qui agissent comme ça, dans la Torah, dans les mitzvot et dans la vie en général. D'accord? On va donner des exemples maintenant. Ça, c'était de manière générale comment ces gens-là se comportent. On va donner des exemples. Premier exemple qu'il va donner, il dit « Umimeina nimshach gamken ma'ashamru razal zrok mara betalmidim » Il dit comme ça. Il a un exemple très simple. Il dit « Voilà, les chachamim nous disent que... Alors ça c'est intéressant parce que c'est pas très clair, parce que, enfin, vous allez comprendre tout de suite. La Gemara dit la chose suivante, elle dit Zrok Mara Betalmidim. Ça veut dire, comment on peut traduire ça en français, c'est jette la bille ou l'angoisse, on va dire. Mara c'est l'angoisse. D'accord? Betalmidim sur les élèves. Comment ils traduisent Mara ici?
C'est pas l'amertume maintenant?
Non, c'est Mara Shrora. Comment ils traduisent ici Mara? Il y a un terme français exact. Tu as?
Oui.
Zrok Mara Betalmidim.
Il y a du chauffage ou pas? C'est moi qui ai froid.
Hmm?
Il y a du chauffage là ou c'est moi qui ai froid?
Ouais, on a chauffé, mais cet après-midi, ce matin, j'ai essayé de lancer la clim parce qu'il y en a une option de chauffage, mais apparemment, je peux jamais la régler. Ça refroidit. Non, je l'ai éteint après. Bon. Je vois, il y a un truc que je. Ce qui fait les deux normalement.
On prend ça à la vodka, c'est bien.
Hein? Tu vas pas? Bon, c'est pas grave. Zrok Mara Betalmidim. C'est-à-dire quoi, Zrok Marab et Talmidim? Zrok Marab et Talmidim, les Chachamim disent dans la Gemara Ktuvot qu'avant que Rabbi Yehuda HaNassi est parti de ce monde, il a appelé son fils Rabban Gamliel.
Jette une frayeur.
Frayeur. Ouais, peut-être frayeur. Oui, c'est une bonne traduction, frayeur. Alors, jeter la frayeur sur les âges. Je vous racontais le contexte. Gemara Ktuvot, ça racontait comme ça. Qu'avant que Rabbi Yehuda HaNassi, le compilateur de la Mishnah, il est parti de ce monde, il a appelé son fils Rabban Gamliel. Et il lui a expliqué, Rabbi Yehuda HaNassi, c'était le dirigeant. Donc, Rabban Gamliel allait le succéder, allait devenir lui-même le dirigeant. Alors, il lui a donné des conseils, comment gérer, comment être le dit, comment être un bon dirigeant. Il lui a dit comme ça, Béni, mon fils, Nehok, Nesi, Outra, Beramim, sois toujours en haut, montre à tes élèves que tu es en haut, ou Zrok, Marab et Talmidim, et mets la frayeur sur les élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les élèves ont peur de toi. Ça veut dire quoi? Alors, c'est assez compliqué à comprendre. Ça veut dire quoi que les élèves ont peur de toi? Alors, il y a beaucoup de Mefarchim qui s'arrêtent sur ça. Et un des Mefarchim explique ça comme ça, il explique cette marade de la manière suivante. Ça veut dire qu'il explique comme ça. Il dit qu'en vérité, des fois une personne, des fois un professeur, un rav, un dirigeant, il peut avoir en soi une certaine amertume. D'accord? Il dit comme ça, par exemple, des fois on peut ne pas être content de quelque chose. Il dit, tu sais, mon fils, sache quelque chose de très important. C'est qu'en vérité, même si tu n'es pas content de tes élèves et que tu vas leur montrer que tu n'es pas content, il faut que eux ils perçoivent de toi que tu n'es pas content, mais que toi, en vérité, à l'intérieur, tu es tranquille, tu es bien. On va comprendre ça plus quand on parle de colère. D'accord ? Voilà. Quand on parle de colère, par exemple, on dit que quand un rabbi va s'énerver, il doit s'énerver contre ses élèves. D'accord ? On dit qu'il faut que extérieurement ça paraisse comme de la colère, mais lui, intérieurement, il doit savoir qu'en vérité, il ne s'énerve pas. Et que s'il l'a fait, c'est seulement pour le bien de ses élèves. Zrok, Marab et Talmidim. Ça veut dire quoi? C'est très difficile à faire ça. Ça veut dire qu'en vérité, il va s'énerver, mais dans sa tête, il sait qu'en vérité, c'est une preuve de chesed, une preuve d'amour. Et qu'en vérité, il ne s'est pas énervé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vérité, cette personne-là, c'est pile le contraire de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Celui qui se contracte, c'est celui qui s'énerve et qui va s'énerver. Et qu'il est énervé. Parce qu'il est comme ça, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne suit pas, quelqu'un qui est algérien, excusez-moi du mot, quelqu'un qui est droit comme ça, dès qu'il y a un truc qui tombe pas exactement comme il veut, ça l'énerve. Il y a de quoi, c'est normal, ça l'énerve. Pourquoi ça l'énerve? Parce que c'est pas exactement comme il veut. Et il est énervé. Celui qui va être comme il dit ici, Zrok, Marab et Talmidim, ça veut dire il va faire l'énervé, mais en fond de lui, il sait qu'il n'est pas énervé, et que pourquoi il fait l'énervé, c'est parce qu'il aime ses élèves. C'est une preuve d'amour.
Pour être énervé, il faut avoir ce sentiment.
C'est une façon de passer le message.
Par l'émotion.
Oui, mais ça veut dire que dans sa tête, qu'il voit? Il voit de l'amour. Il ne voit pas de la rage. C'est très difficile à faire ça.
Une forme d'autorité.
D'accord? Oui, mais c'est très difficile à faire ça. Ça veut dire qu'extérieurement, on voit de la rage presque. De la fermeté. D'accord? De la fermeté. Et en vérité, intérieurement, lui, il sent ça comme de l'amour. C'est très difficile à faire ça. Et ça, c'est un conseil qu'il a donné Rabbi Yehuda HaNassi à son fils Rabban Gamliel. Donc là, en vérité, quand on réfléchit bien, on voit que ça correspond à la deuxième approche, à l'approche de droite. C'est-à-dire que là, on a affaire à une personne qui, extérieurement, il est en train de crier de la rage, etc. Mais intérieurement, en vérité, dans sa tête, il est en train de donner de l'amour. Ça, c'est un premier exemple. C'est un exemple qui n'est pas très facile à voir. D'accord.
Et ça a été repris par Maïmonide dans le traité sur la pédagogie, comment enseigner à ses élèves. Il a repris.
Il reprend ça, bien sûr. Ah ouais. Il dit qu'il faut que ce soit extérieurement et pas intérieurement.
Exactement.
On dit aussi par rapport aux, on dit aussi qu'il faut jamais punir ses enfants quand on est énervé.
On peut lui
montrer qu'on est énervé, mais quand on est vraiment énervé, on risque de prendre une décision qui est disproportionnée et que de toutes les façons on ne fera pas. Donc on a tout perdu, ça sert à rien.
Exactement. Comme ça, Rambam, il faut la faire sur le moment, même pas après.
Gad Elmaleh dit aussi,
Qu'est-ce qu'il dit?
Gad Elmaleh, il dit, quand tu veux frapper un enfant, il faut pas frapper quand t'es énervé.
Gad Elmaleh?
Pourquoi? Parce que...
Il dit, quand tu veux frapper, attends que tu sois calme. Et après, tu viens.
Viens, mon fils, comment tu vas?
Pour le surprendre.
Tu te rappelles, il y a deux jours, c'est...
Comment une dernière, tu m'as ramené un 2,3 en maths? Tiens.
Non, non. C'est très... Zrok, Marab et Talmidim. D'accord. Donc, maintenant, l'Admor Hazaken, maintenant, il va tout de suite, parce que bon, on voit tout de suite, on comprend tout de suite quand on voit ça maintenant, qu'en vérité, ça correspond à deux approches. Bon, alors moi, j'ai grossi un peu, j'ai dit le Tunisien, l'Algérien, le Marocain, enfin, il n'y a rien à voir avec ça.
Non, c'est peut-être sûr.
D'accord.
Non.
Je ne suis pas encore parlé de Marocain. Hein
non.
Vous comprenez que c'est il y a entre les deux, le Marocain, il y a entre les deux. Vous comprenez que c'est de nature, et que ces natures, on le retrouve chez chacun de nous. qu'il y a des gens qui sont plutôt conservateurs, et il y a des gens au contraire qui sont plutôt beaucoup plus ouverts, qui s'étalent beaucoup plus et qui réfléchissent beaucoup moins, et qui... D'abord on avance, après on verra. Après on verra comment on va faire. Bon. La question qu'on va se poser maintenant, c'est nous, où on se situe dans tout ça ?
À mi-chemin.
Alors, c'est une très grande question. Pourquoi c'est une très grande question ? Parce que si on était des anges, la question ne serait même pas posée. Parce qu'un ange, il peut avoir une seule mission. On dit que Michael est l'ange du chesed, Gabriel est l'ange de la rigueur. Ça veut dire qu'un ange peut avoir seulement un seul mode, pas deux modes. D'accord, Raphaël, c'est la réfoie. Non, c'est bon. Pourquoi je dis ça ? Pour expliquer qu'un malach, un ange, ne peut pas avoir deux modes. Il ne peut pas être convertible. Une fois il est chaud, une fois il est froid. Ça ne marche pas comme ça. C'est soit il est chesed, soit il est gvoura. Raphaël, pardon, on a dit Michael, c'est chesed. Gabriel, c'est gvoura. Bon, le problème, c'est que nous, les hommes, nous ne sommes pas comme les anges. Nous, les hommes, on est convertibles. C'est-à-dire que même si, de série, quand on est, on a une nature qui est plutôt bonne ou qui est plutôt rigoureuse, mais on est capable, dans notre vie, d'avoir les deux en même temps. Et ça, c'est ce qui rend les choses complexes. C'est pour ça qu'un malarque n'a pas de libre-arbitre, parce qu'un malarque, il est créé comme une machine. D'accord ? Il est créé comme une machine, il tourne, il ne peut pas tourner autrement. C'est soit plus, soit moins, c'est pas, soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être le contraire. Nous, le problème, c'est qu'on est convertible. On peut faire d'un côté recette, d'un côté que vous. Pourtant, vous avez bien vu qu'avec ce qu'il a montré ici, c'est deux natures qui sont complètement différentes. Et pas seulement différentes dans la vie, différentes même dans la manière de faire les mitzvot. C'est deux personnes complètement différentes et qu'un ne comprendra pas l'autre. Imaginez-vous maintenant, si ces deux personnes-là, tu dis, ben finalement, les deux personnes, c'est toi. Et toi, des fois, l'on t'a vu, tu es comme ça, des fois, l'on t'a vu, tu es comme ça. Alors moi, je vous pose la question, je me dis, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi ? Parce que c'est deux approches qui sont complètement contradictoires.
Bah les deux.
Ah, tu peux, mais non, tu peux pas aller les deux.
Bah si.
Là maintenant, j'ai une mitzvah qui se présente. J'achète le etrog à 20 euros ou à 1000 euros ?
Bah si t'as 1000 euros, t'achètes à 1000.
Ah, à 500.
T'as pas, t'achètes avant.
Mais non, parce que pour celui qui est conservateur, 21 euros, c'est déjà pas bien.
Ouah, non, là, c'est exagéré.
Mais si un coup, on est...
Non, parce que non.
Non, là, c'est poussé, là.
Si un coup, on est droite un
peu. Non, mais moi, je pense qu'il faut... On a une tendance...
C'est facile de répondre juste au milieu.
Non, on a une tendance... Et puis on sait qu'il y a la zone d'effort, ça veut dire que tu es peut-être flambeur d'un côté, mais il serait bon de maîtriser ce côté flambe pour arriver à quelque chose
bon.
Un peu plus...
Alors, casino, tu
ouais, mais c'est pour les fonctions des situations.
Oui, mais encore une fois,
des priorités,
les malachim, eux, la question ne se pose pas, parce que eux, les malachim, ils sont déjà conçus qu'un, il est plutôt bon, l'autre, il est plutôt rigoureux, et c'est comme ça qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu.
D'accord.
Okay. Ce qui rend la chose complexe, c'est que chez nous... On va pas forcément suivre le chemin qu'on vous a donné.
Je suis d'accord. Alors, quand tu dis qu'il y a des gens qui sont plutôt rigoureux et d'autres qui sont plutôt dans la bonté.
C'est des natures, oui.
D'accord. C'est des natures. Donc, ils font pas d'efforts quand ils sont plutôt à droite.
Après, il va se marier. Il va avoir un enfant, par exemple.
Il va devoir jouer...
Eh ben oui, il va se marier. Lui, il est plutôt conservateur. Sa femme, c'est plutôt le contraire. Ou bien, le mari et la femme sont les deux conservateurs et ils ont un enfant qui est pile le contraire. Donc, on va devoir s'adapter. Et qui dit s'adapter, dit faire des concessions. Donc la question qu'on se pose, c'est où on se situe dans tout ça. Mais encore une fois, c'est pas une question juste dans la vie, est-ce qu'on dépense ou on dépense pas. C'est une question existentielle, dans la vie, de manière générale, même dans les mitzvot. Comment on doit se comporter ?
On a déjà tout mélangé, tout ça. Nous, chesed dans Gvoura, Gvoura dans chesed, on a déjà tout mélangé, tout ça.
Comment tu mélanges tout ça ?
Quand on a étudié les... Je sais plus comment ça s'appelait là.
Oui.
Ouais, c'est ça.
J'ai compris.
On a tout mélangé et nous, on sait qu'on a un devoir de ressembler à Dieu. Donc voilà.
Alors qu'est-ce que je fais alors ? Concrètement, qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce
que je
vais retenir ? L'un dans l'autre.
Bah, attends, mais Hacham, il est les deux.
Non.
Il sait être bon et il sait être
concrètement. Concrètement, je me pose une question. J'ai un projet à lancer.
C'est pour ça.
Combien je mise ? 20 000 ou 10 000 euros ? 20 000 ou 10 000 euros ? 20 000 ou 100 000 euros ?
Ça dépend si tu es mec nazi ou pas.
Tu comprends la question ?
C'est la question que je pose.
Hein ? Non mais
c'est même pas 20,
non,
20
euros. Chez les Marocains c'est compliqué parce que chez les Marocains il y en a qui sont algériens, il y en a qui sont nature algérienne, il y en a qui sont nature tunisienne, il y en a qui sont nature, il y a de tout chez les Marocains la prochaine. Ça dépend de la ville.
Non mais non, attends.
Et dans la ville même du quartier.
Non mais plus sérieusement. Attends. Hachem, il a plus de 70 noms, je crois, d'accord ? Chaque nom a une signification selon les midot, ce qu'il a envie de montrer. Eh ben, sinon, on a une parcelle divine et que ces parcelles, c'est un saint divine, on va les exprimer selon les situations, selon telle midot et telle autre. Donc, on est le reflet de ce que Hachem, on va être tantôt
Je vais vous expliquer la direction que va prendre la lettre. D'accord.
De retour sur investissement, tu vas.
Quand tu fais une analyse financière.
Regardez, c'est très simple. Pour vous. Parce que je vois que c'est un point qui a du mal à passer. Donc je vais vous donner, je vais vous expliquer la direction de la lettre. Vous suivez ? Allez, monsieur, on se réveille. Alors regardez, non, c'est très simple, je vais expliquer. Regardez. Là, à qui s'adresse la Gemara Zaken ? La Gemara Zaken s'adresse à des gens qui étudient la Torah constamment. Et attendez deux secondes. Non, mais je vais vous expliquer où est le problème. Écoutez bien ce que je vais expliquer.
C'est pas nous. Pas que le lundi, non ?
C'est des gens qui étudient la Torah constamment. Et c'est des gens à qui, à la fin de la lettre, il va demander de la tzedaka. Il va leur demander de donner de la tzedaka de manière illimitée.
Bon.
Écoutez bien. Mais avant de leur demander cette tzedaka, il va leur expliquer d'abord, il va leur dire, je sais que si je viens vous demander de dépasser vos moyens, vous n'allez pas m'écouter. Pourquoi vous n'allez pas m'écouter ? Parce que du fait que vous êtes des talmidei chachamim, naturellement, la force des choses vous pousse à être plutôt conservateur. Et donc, du coup, vous devenez conservateur même dans la tzedaka. Vous comprenez la direction que va prendre la lettre ? C'est-à-dire que finalement, ce qu'on comprend, c'est que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah et qui est dans les affaires tous les jours, il aura beaucoup plus de facilité à se dépasser et à donner plus qu'il se moyen dans la tzedaka qu'une personne qui est dans la Torah toute la journée. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Rien à voir avec les moyens.
Non.
Justement, tu as raison, on aurait dû croire l'inverse. Pas du tout. Parce qu'une personne qui a l'habitude qui a l'habitude toute la journée d'être dans les affaires et de dépenser, c'est une personne qui n'a pas peur de dépenser. Clac, il dépense, il n'a pas peur. D'accord ? Mais une personne qui, elle, au contraire, est habituée à réfléchir de manière conservateur, il est conservateur dans sa vie. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. On dit qu'un employé, il a beaucoup plus de mal à donner à la tzedaka qu'une personne qui travaille à son compte. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez. Prenez une personne qui a un magasin. Il a un magasin. Une personne qui a un magasin, il sait qu'il y a des mois où ça rentre très bien et il y a des mois où ça ne rentre pas. Quand il va donner la tzedaka, combien il va donner ? D'accord ?
Ça dépend du mois.
Il va être open, il va donner facilement. Pourquoi il va donner facilement ? Parce que dans sa tête, il a un budget qui n'est pas. Ça veut dire que pour lui, les grosses sommes, ça ne lui fait pas peur. Prenez d'un autre côté un employé. Quelqu'un qui a une somme, c'est-à-dire que chaque mois, il a un fixe. D'accord ? Même s'il sait, contrairement à l'autre, que lui, il ne sait pas combien il aura à la fin du mois. Il ne sait pas combien il aura à la fin du mois. Il peut pas, c'est impossible de prévoir combien il aura à la fin de l'année. L'employé, lui, il sait combien il aura à la fin de l'année. Mais du fait qu'il sait combien il a à la fin de l'année, donc automatiquement il est beaucoup plus conservateur parce qu'il s'habitue à calculer.
Ça veut dire quoi s'il fait à Paris et se passe à Dakar, le commerçant il dit je donne beaucoup comme ça en espérant que du
vin. Exactement. Mais c'est deux approches qui sont complètement différentes.
Alors, ça marche ou pas ?
D'accord ? Deux approches qui n'ont rien à voir.
C'est censé marcher.
D'accord ? Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la Gemara Zaken, il va expliquer dans la suite de la lettre. Ça, on développera la semaine prochaine.
Non, mais surtout, on ne sait pas si tu le sais.
Attention, c'est compliqué ce qu'il va dire ici. La Gemara Zaken, surtout la semaine prochaine, ça a un rapport avec la crise. Ce qui explique la Gemara Zaken ici, c'est que finalement, on s'adresse ici à des hommes de Torah. Et comme ce que dit David, c'est étonnant, parce que normalement, on se serait attendu à ce qu'une personne qui est un Talmid Chacham et qui étudie la Torah toute la journée, c'est lui la meilleure personne à comprendre l'importance de la Tzedaka. C'est lui qui devrait dire, je veux donner plus que mes moyens. Je ne dis pas du tout. Parce qu'une personne comme ça, il s'habitue à tout ce qu'il fait, doit être réfléchi, doit être pesé, doit être calculé, d'accord, doit être géré. Proportionnellement. Il sait que 20% de sa paye, c'est ça. Il aura du mal à aller plus loin que ça. Parce que dans sa tête, un Talmid Chacham, il s'habitue à réfléchir de manière pesée, réfléchie, gérée, il gère. Alors qu'une personne, au contraire, qui est dans la vie de tous les jours, il a l'habitude beaucoup plus de moins réfléchir, de moins calculer, de dépenser, c'est tout. Et c'est pour ça que la Gemara Zaken dit ça. Il s'adresse, il dit, je sais que vous êtes Talmidei Chachamim, et que, du fait que vous étudiez la Torah, ça vous rend comme ça, mais sachez que vous n'êtes pas des Malachim, et que vous avez l'obligation d'essayer d'aller à contre-courant. Même si la Torah, quelque part, des fois, elle vous encourage de ce côté, mais moi, je vais vous montrer des côtés où la Torah nous encourage de l'autre côté, et on va voir finalement qu'est-ce que la Torah pense de tout ça. Alors, attention. Là, on a fait que poser les problèmes. On a montré du côté droit, on a montré le côté gauche. Maintenant, il nous faut des acteurs. C'est-à-dire, on va amener des exemples, Beth Hillel, Beth Shammai, d'accord. Et on va voir comment ces acteurs donc, qui avaient le même problème que nous, c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient plutôt du côté droit, d'autres qui étaient plutôt du côté gauche, comment eux, ils ont géré ça. Et comment eux, ils essayaient de tout leur possible d'atteindre l'autre côté aussi. Vous comprenez? Parce que là, on a posé le problème. Maintenant, il faut voir comment on fait, concrètement. On est d'accord? Ok. C'est ce qu'on va développer tout de suite. Veiné. Alors déjà, l'Admor HaZaken, il annonce tout de suite la couleur. Veiné. Vous avez Veiné? Kol Ish Israël? Je sais pas si j'ai... Attendez. Veiné. Kol Ish Israël, Tsarich Iliot Kaloul mi Bet Prinot Eli. L'Admor HaZaken, en vérité, ça, on va développer plutôt la semaine prochaine, mais on va commencer quand même. D'emblée, il annonce la couleur. Il dit, tu dois savoir que maintenant, que chacun du peuple juif doit avoir les deux notions qu'on vient de dire ici. Le côté conservateur et le côté, on va dire... D'accord, claqueur.
C'est ce qu'on vient de dire.
D'accord. Pourquoi? Ve'en lecha davar shen lo makom. Comment c'est possible? Non, mais c'est un problème. Non, attendez. C'est très compliqué ce qu'il dit ici, parce que vous prenez ces deux personnes-là. D'accord. Et c'est d'ailleurs ça peut être d'ailleurs un des problèmes dans le Shalom Bayit, c'est que quand tu as un qui est plutôt conservateur et l'autre qui est plutôt dépensier, ça fait des problèmes parce que ils n'ont pas du tout la même approche. Voilà. Qu'est-ce qu'il te dit l'Admor HaZaken? Il te dit chacun doit être kaloul, donc un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Il doit avoir les deux en même temps. Pourquoi? Comment on peut se faire concrètement? Ve'en lecha davar she'en lo makom. En Pirkei Avot c'est écrit tu n'as pas de chose qui n'a pas de place. Ça, c'est une phrase, quand on a compris cette phrase, on a tout compris. Ça veut dire qu'il n'y a rien, quand on te demande quelque chose, il n'y a rien, tu peux dire, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Dans notre lexique, ça n'existe pas, c'est pas possible. Ce que je peux dire, c'est, maintenant, je ne peux pas le faire. Plus tard, peut-être. Mais le mot, c'est pas possible, ça n'existe pas. En lecha davar, shen lo makom. Ve en lecha adam, shen lo sha'a. Tu n'as pas de chose qui n'a pas de place, et tu n'as pas d'homme qui n'a pas d'heure. Ça veut dire qu'une personne, même qui est pauvre, il finira par être riche. Riche par rapport à lui. Une personne qui est riche finira par être pauvre. Tu n'as pas de chose qui n'a pas de place et tu n'as pas d'homme qui n'a pas d'heure. Une phrase très forte de Pirkei Avot. Et donc, quand on a compris cette phrase, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que moi, si je viens et je dis, je suis plutôt conservateur. Et la nature des pensées, c'est pas ma nature. Tout de suite, je dis, c'est faux. Pourquoi? Parce que, en lecha davar shen lo makom. Tu n'as pas de chose qui n'a pas de place. Donc, toi, tu te dis conservateur, être dépensier, tu dis que c'est une chose qui n'a rien à voir avec toi, faux. En lecha davar shen lo makom, tu n'as pas de chose qui n'a pas de place. Cette nature a forcément une place dans ta vie. Une place peut-être moins importante,
mais
c'est une composante de ta vie, parce que tu n'es pas un malach. Velachen, c'est pour ça. Matsi, nuka matvarim, c'est pour ça qu'on a trouvé plusieurs choses. Mikul et betchamay ou mikhumre bet hillel. Dans la Gemara, on sait que bet hillel, en général, est plutôt de droite, quand il est plutôt permissif, et Beth Shammai est plutôt restrictif. Donc côté droit, côté gauche. Et pourtant, on voit dans la Gemara qu'il y a des fois dans lesquelles Beth Hillel a été plus restrictif, et des cas dans lesquels Beth Shammai a été plus permissif. Et la Gemara, elle les classe. Elle dit que ça s'appelle Khumre Beth Hillel, les Khumrot de Beth Hillel, et les Koulot de Beth Shammai. D'accord? Selon, normalement, on considère 6 cas. Il y a 6 cas, normalement. D'accord? Bon, il y a, peu importe les cas. Ça, c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, couler Beth Shammai, Khumre Beth Hillel. Si tu me dis que Beth Hillel et Beth Shammai, enfin, il y a 6, mais 6 de base. Après, il y en a d'autres encore. Si tu me dis que Beth Hillel et Beth Shammai, Beth Hillel doit être permissif et Beth Shammai doit être rigoureux, comment ça se fait que dans le cas dans lequel, que dans un cas, Beth Hillel a été rigoureux et Beth Shammai a été permissif? Est-ce que ça veut dire que Beth Hillel est passé à côté de sa mission? Est-ce que ça veut dire que Beth Shammai est passé à côté de sa mission? Tu dis non. Parce que quand on te dit que Beth Hillel est plutôt restrictif et permissif et Beth Shammai est le contraire, on te parle de leur nature générale. Mais rien n'empêche d'avoir le concept de Itkalelut. C'est un concept très important qu'on va développer la semaine prochaine. Le concept de Itkalelut, c'est-à-dire le concept de l'inclusion. De dire que moi je suis comme ça, une autre personne est comme ça. Alors quand je vais me marier, quand je vais fréquenter une personne, je ne vais pas changer. On ne change pas quand on se marie. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que peut-être j'ai un faible pourcentage de ma vie qui va suivre l'autre côté. Et de l'autre côté, de la même manière. Et c'est ce qui va faire qu'on on va tenir. Ça s'appelle la Itkalelut.
C'est un équilibre.
D'accord? C'est un équilibre. Chacun il va lâcher un peu du sien. Et on va garder un équilibre. Mais le but du mariage, c'est pas de changer l'autre. On change pas l'autre. Tu ne changeras pas de toutes les façons. Tu crois que tu ne changeras pas. Tu peux l'éteindre si tu veux, mais tu pourras pas le changer. D'accord.
Et le modifier.
Non.
Pas changer, mais
il faut pas le modifier. Non, une nature peut pas la modifier. Il faut enlever ça de sa tête.
Non, je sais pas, je pose la question.
Ah non, moi, quand je prépare les khatanim au mariage, et ma femme aussi, quand je dis très simple, ne cherche pas à changer ta femme, tu ne la changeras pas.
Je parlais pas.
Par contre, ce que tu peux, c'est on va essayer. On change pas. Tu changeras pas.
Non, les habitudes, non, mais
on changera pas.
La manière de voir, parce que quand, tant qu'une personne est seule, elle a qu'un seul regard, c'est-à-dire elle a des yeux comme un cheval. Tu lui mets des yeux, il va tout droit. Maintenant, tu lui écartes les œillères, son champ de vision, il va s'agrandir, il va devoir composer.
J'ai compris.
Donc forcément,
je parle de nature.
Oui, je
une nature qui dérange, on la changera pas.
Et il va forcément modifier un petit peu son système de valeurs, sa manière d'être, de se comporter, etc. Je veux dire.
Non, je sais pas. C'est quoi. Ça veut dire que l'extérieur va avoir une influence.
Bah, bien sûr, c'est parce que t'as une autre personne.
Mais modifier la nature.
L'environnement
la nature,
et
c'est ça qui... bah, il a transformé cette sauvagerie dans la tombe,
mais quelque part, c'est quand même.
Donc il a changé. Il était de.
Je parle de la nature maintenant. Non, faire tes choix, bien sûr qu'on fait tes choix.
Moi je te parle de.
Mais moi je parle de la nature.
Donc forcément, tu modifies le lui.
Non, la nature, c'est le côté féroce. Il y a plus de férocité après. Ah si, il était, on va dire...
Il a canalisé dans la Torah.
Il a canalisé dans la Torah, non ? Il est féroce, c'est-à-dire il a été agressif, non, toujours vers l'avant. Toujours.
Garde ta nature.
On garde sa nature.
Tu l'abordes.
On ne peut pas changer sa nature. Une nature, ça ne se change pas. On peut avoir une seconde nature, mais c'est très compliqué.
Par contre, à un certain âge, c'est sûr qu'on ne peut plus la modifier. Ça, c'est clair. En psychologie, c'est comme ça qu'on l'explique.
Exactement, ouais. D'accord ?
Toi, comme on dit dans la Torah, que jusqu'à l'âge de 3 ans, tout le corpus des midot de l'individu sont formés.
Oui, mais vous avez raison.
Et jusqu'à l'âge de 16 ans... On parle du
comportement, c'est le comportement. Mais la nature d'un enfant... Depuis le ventre de sa mère déjà, une mère, elle pourrait te dire, cet enfant, il est calme, lui, il n'arrêtait pas de bouger.
Je te parle de la nature. Et à partir de là, donc après 16 ans, on ne peut plus la modifier.
Non. Il ne faut pas chercher à modifier.
On peut corriger.
Mais il y a ce qu'on va parler la semaine prochaine.
On peut plus.
Il y a la notion de itkalelut. Dans le mot itkalelut, on a le mot klal. Klal qui veut dire. Qui veut dire. Donc assemblage. Et c'est la raison pour laquelle, bien que Beth Hillel et Beth Shammai, Beth Hillel est plutôt Kula, Beth Shammai est plutôt Rumra, on voit qu'il y a eu le concept du itkalelut, et c'est pour ça que des fois Beth Hillel a été Mekil, Mahmir, et des fois Beth Shammai a été Mekil. Comment ça se fait ? C'est pour assurer ce concept de Kalelou, parce qu'ils ne sont pas des anges. Comme ils ne sont pas des anges, forcément, dans la vie, il doit y avoir au moins un faible pourcentage de la nature de l'autre, sinon c'est pas bon. D'accord ? Maintenant, ce que va expliquer la Morazaken plus tard, ça on va développer la semaine prochaine, mais c'est avant d'arriver à la fin de la lettre, il faudra d'abord bien comprendre ce concept de Kalelou. Parce que là, on n'a fait que poser le problème. Avec ça, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire se faire violence. Et comment Beth Shammai
se remettre en cause.
Quand tu vas donner la tzedaka, une personne comme ça, comment et dans quoi on doit se faire violence ? C'est la question qu'on se pose.
Modifier son moi intérieur.
Bah oui, parce que finalement, est-ce que ça veut dire que la Torah te dit que dans ce cas-là, il faut se faire violence, alors dans ce cas-là, moi j'ai pas envie de montrer mes qualités, alors je vais montrer mes qualités ? Moi j'ai pas envie de pleurer en public, alors je vais pleurer en public ?
Non, c'est pas ça.
Et oui, où est la... Bah oui, sur quoi ? Dès qu'il s'agit d'argent, tu veux l'argent, ça y est, tu me dis donne.
Il faut définir.
Ah, comment ça marche ? D'accord ? Ça, il faut définir. Alors, on va amener Bezrat Hashem la semaine prochaine des exemples dans la vie de Beth Hillel et Beth Shammai. On va amener ce que le Harizal explique pour expliquer la racine de la Neshama de Beth Hillel et Beth Shammai et comment ça a dépeint sur leur vie et comment on va montrer dans quel cas il faut se faire violence et dans quel cas, au contraire, on te dit ta nature, ce que tu es, c'est très bien. Ça, c'est très très intéressant. Après, on parlera d'Avraham, de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak n'était pas comme son père ? Pourquoi Avraham n'était pas comme son fils ? C'est très intéressant, Bezrat Hashem. Ça, je laisse pour la semaine prochaine. On parle de David Ameler aussi, de ses enfants, beaucoup de... D'accord ? Voilà.